Un mot d'avertissement avant de rentrer dans notre sujet. Dimanche dernier, Pierre Marques a largement abordé ce qui va être redit ce matin. Donc ne vous étonnez pas si vous réentendez des mêmes versets, des mêmes références. Je lui en ai parlé après le culte dimanche et il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait y retourner. Donc avec sa permission, nous y allons. Au début du mois de janvier 2023, je me trouvais à Rome. En général, quand je vais à l'Italie, j'ai mes petites habitudes, notamment celle d'accomplir des sortes de pèlerinages culturels, esthétiques, artistiques. Il me plaît de revoir les mêmes œuvres de Caravage, de revoir les mêmes œuvres du Bernin. Bref, j'ai du plaisir à revisiter les mêmes endroits, à revoir certains tableaux dans certains musées. Et depuis très longtemps, je suis un admirateur, attention, j'ai dit admirateur, pas adorateur, d'accord ? Bien. Je suis un admirateur d'une œuvre magistrale de Michel-Ange. Je veux parler de sa célébrissime Pietà. Cette incroyable composition en marbre de Carrare se trouve au sein même de la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc, pour revoir la Pietà, un jour de semaine, un matin, je sais pas, vers 9h, 9h30, me voilà dans l'interminable file d'attente pour passer le contrôle d'accès à la basilique. Lorsqu'enfin j'atteins les portes d'entrée, un service d'ordre s'adressant à chacun ne cesse de répéter « Solomissa, Solomissa, Solomissa » seulement pour la messe, seulement pour la messe. Je m'avance vers l'une de ces personnes et demande « Qui fera l'homélie ce matin ?» et on me répond « Papa Francesco ». Eh bien, ça tombe drôlement bien parce que moi, qu'est-ce que vous voulez, le pape François, j'ai toujours eu un petit faible. Donc, va pour la messe. En fait, je n'avais pas du tout prêté attention, mais nous étions le 6 janvier. Et pour moi, le 6 janvier ne représente qu'une chose, c'est la date anniversaire de notre fille aînée. Sauf que, dans le calendrier liturgique catholique, c'est Epiphania, c'est l'Épiphanie. Et il était donc naturel que ce matin-là, le pape Francesco prêcha sur les rois mages. Voilà pour le fond du tableau. Le sujet de notre réflexion ce matin sera l'adoration. L'adoration. Et le premier chapitre, ou le premier volet sur lequel nous allons nous arrêter, c'est l'idée de venir, de faire un parcours, de venir pour adorer. Le texte qui relate l'épisode des rois mages se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2. Il m'a paru intéressant de comparer ce que proposent diverses traductions, diverses versions. En voici cinq, mais vous le savez, il en existe beaucoup plus. Dans tous les cas de figure, ce sont évidemment les rois mages qui parlent, qui s'expriment. Nous nous attarderons sur deux versets seulement, le verset 2 et le verset 11 du chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu. Bible de Jérusalem, verset 2, « Nous sommes venus lui rendre hommage. » Verset 11, « Ils se prosternèrent et lui rendirent hommage. » Bible Hostie, verset 2, « Nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. » Verset 11, « Ils tombèrent prosternés devant lui. » Une ancienne version, traduction du XVIIIe siècle, celle de David Martin, propose au verset 2, « Nous sommes venus pour l'adorer. » Verset 11, « Ils se prosternèrent et l'adorèrent. » Une version encore plus ancienne, du XVIe siècle cette fois-ci, propose au verset 2 « Nous sommes venus l'adorer » et au verset 11 « Ils l'adorèrent en se jetant par terre ». Enfin, l'ancienne version seconde que nous conserverons pour ce matin, verset 2 « Nous sommes venus pour l'adorer » et au verset 11 « Ils se prosternèrent et l'adorèrent ». Toutes ces versions commencent par « Nous sommes venus ». Venir pour adorer. Le pape François n'a pas omis de rappeler que les rois mages avaient parcouru un très long voyage pour adorer. Avant d'arriver à destination, avant d'avoir atteint le temps de l'adoration, ils ont eu un long chemin à parcourir. Une évolution a eu le temps de s'installer en eux. Il est peu vraisemblable qu'il se soit agi d'un parcours uniforme, linéaire, sans aspérité. Peut-être y a-t-il eu des jours avec une météo parfaitement favorable et d'autres défavorables. Peut-être y a-t-il eu des jours sans heurts, sans incidents, et d'autres plus compliquées, avec des contretemps divers et variés. En tout cas, pendant tout le voyage, ces trois hommes ont dû longuement réfléchir, densifier, laisser mûrir leur motivation, sans pour autant changer de cap ou de trajectoire. Bref, ils sont venus pour adorer. Venir faire un parcours personnel, intérieur, pour adorer. L'ancienne version seconde semble établir un distinguo subtil entre le fait de se prosterner et celui d'adorer. Nous lisons au verset 11, « Ils se prosternèrent et adorèrent ». Alors, cela paraît un peu virtuel, mais on dirait que nous avons ici deux propositions contiguës. Première proposition, la prosternation, que nous essaierons de définir comme un mouvement descendant. Et deuxième proposition, l'adoration, que nous essaierons de définir comme un mouvement ascendant. Deuxième volet, chapitre 2. Quelques mots sur la prosternation. Ce qu'il faut commencer par dire très clairement, c'est que la prosternation, c'est déjà de l'adoration. Elle en fait partie. Quand vous décidez d'écouter une œuvre musicale qui commence par un prélude, pardon de le dire, mais le prélude, c'est déjà de la musique. Ce prélude fait partie intégrante de la pièce musicale que vous avez décidé de considérer. Alors, quand on parle de prosternation, la première image qui vient à l'esprit est celle d'une attitude physique, corporelle. On peut être à genoux, les yeux fermés ou pas, la tête baissée. Et vous le savez, pour adorer, certains religieux se mettent carrément à plat ventre sur les dalles du sol. Ce visage qui s'abaisse, qui s'approche du sol, est une posture que Jésus lui-même a empruntée dans le jardin de Gethsémani. Dans Matthieu au chapitre 26, au verset 39, nous lisons « Puis il s'avança, il c'est Jésus, puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria. » Alors, que nous dit le dictionnaire sur la prosternation ? Nous lisons, c'est se courber jusqu'à terre en signe d'adoration. Vous voyez, tout ça est en lien étroit. Et à ce sujet, voici une courte anecdote. Chaque année, pour notre maison de Lozère, j'ai fait venir le même ramoneur. Au début, la première fois, au tout début, C'était un homme absolument silencieux, un vrai taiseux. Cependant, dans sa manière de se comporter, dans la qualité de son écoute, dans le sérieux de son travail, quelque chose le distinguait du commun, au point que j'ai fini par lui demander, allez savoir pourquoi, que j'ai fini par lui demander s'il était croyant. Réponse, oui. Allez savoir pourquoi, j'en ai rajouté une deuxième couche en lui demandant ceci. Je ne sais pas d'où c'est venu. Qu'est-ce qui, dans l'expression de votre foi, vous paraît essentiel? Nouveau silence. Puis, levant les yeux vers moi, il dit « s'incliner ». Il se tait de nouveau et me dit « s'incliner, se courber ». Deux infinitifs avec ceci de particulier, c'est que tous les deux se présentent à la forme pronominale. Je vois des airs terrorisés. Qu'est-ce que c'est que la forme pronominale ? Petit rappel scolaire. La forme pronominale, c'est quand le verbe est introduit par le pronom personnel « se ». On parle alors d'une forme réfléchie, c'est-à-dire qu'elle renvoie prioritairement à soi-même. Et dans le cas qui nous intéresse, cela sous-entend un choix, une décision personnelle, délibérée. On ne dit pas « je prosterne » ou « il prosterne ». Je prends la décision de me prosterner. Les rois mages se sont prosternés. Livre de l'Exode, chapitre 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. » Premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 29, « Prosternez-vous devant l'Éternel. » Ainsi, il y aurait d'abord une proposition, celle de l'abaissement de la chair, pour que puisse avoir lieu ensuite l'élévation de l'adoration. Que faut-il entendre par l'expression « abaissement de la chair » ? C'est l'abaissement du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire du corps, de l'intellect, du mental, de mon capital de connaissances, bref, de façon mêlée, tout ce qui, du meilleur au pire, constitue le moi. Et tout cela plie, cède, s'incline et se courbe devant la gloire de Dieu. On ne peut pas adorer Dieu en se plantant debout, droit dans ses bottes. On ne peut pas adorer Dieu en restant identitairement debout devant lui. Le ramoneur l'a dit, il faut s'incliner, il faut se courber. Métaphoriquement, il convient de rapprocher son visage du sol, de la poussière dont nous sommes issus. La prosternation, c'était la première proposition, le mouvement descendant. Deuxième proposition, le mouvement ascendant, l'adoration. Et c'est notre troisième volet. La semaine dernière, dans sa prédication, Pierre a cité ce passage, extrait de l'évangile de Jean, où Jésus se trouve près d'un puits, en présence de d'une femme samaritaine. Et voici ce que dit le Seigneur. Et puis, Évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Je lis très lentement. les vrais adorateurs de Dieu adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mes amis, il est difficile de vouloir disserter sur l'adoration. En effet, les questions que l'on est amené à se poser sur ce sujet sont complexes et nous laissent très vite démunis. En quoi consiste-t-elle vraiment ? Quelle est sa nature ontologique ? Quelle est sa forme ? Comment s'exprime-t-elle ? Quelle est sa densité et la mesure-t-on ? Quelle est sa fréquence ? Etc., etc. Alors, pour nous aider à avancer sur ce sujet, sur ce terrain difficile, deux textes de l'apôtre Paul peuvent venir à notre secours. La première affirmation qu'il pose se trouve dans une première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19, et Pierre a longuement développé la semaine dernière sur ce propos. L'apôtre dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». On le rentre bien ça. « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Le deuxième indice se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 26. Là, Paul ne traite pas de l'adoration, mais de la prière d'intercession. Que dit l'auteur ? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, ou indicible selon d'autres versions. À partir de là, je vous invite à une expérience pédagogique. Are you ready? Ben, si, comme un exercice chirurgical, nous ôtons de ce verset l'idée de la prière d'intercession et qu'à la place nous greffons en ces lieux et place l'idée d'adoration. Cela pourrait donner un subterfuge qui ressemblerait un peu à ceci. Nous ne savons pas comment il convient d'adorer, mais l'Esprit lui-même adore par des soupirs inexprimables ou indicibles. Je souligne bien que nous sommes dans la fiction. Il n'en reste pas moins que la leçon que l'on peut retirer de cette opération pourrait consister en ce qu'après avoir intérieurement cheminé, nous être littéralement dissous en prosternation devant la présence glorieuse de Dieu, l'Esprit-Saint qui demeure en nous, nous porte, nous transporte en adoration en disant, ou mieux, en adorant en vérité. Se courber, s'incliner pour adorer, ce n'est pas se retirer ou se défausser, non. Bien au contraire, c'est juste déléguer tout pouvoir d'expression à l'Esprit que Dieu a mis en nous, lui donner pleine et entière procuration pour que, pleinement, totalement impliqué en lui, il nous entraîne et nous conduise dans la vérité de l'adoration. Alors, comment se positionner par rapport à l'ensemble de ce qui vient d'être dit ? De fait, une grande variété de schémas se présente à nous. D'aucuns adorent en usant de formules toutes faites, directement puisée dans un patois de Canaan, ô combien généreux. Pourquoi pas ? Pour tel autre, l'attitude de la prosternation suffit. Pourquoi pas ? D'autres encore se réfugient dans le silence ou dans la contemplation. Pourquoi pas ? Certains, enfin, chantent des cantiques ou parlent en langue. Pourquoi pas ? Je ne suis pas convaincu que la forme revête aux yeux ou aux oreilles de Dieu un caractère essentiel. Répétons-le. L'apôtre situe notre relation au Père Céleste dans le cadre de l'indicible, de l'inexprimable. Mais en parlant de l'apôtre Paul, il ne s'arrête pas là. En effet, mes bons amis, nous n'avons lu que le début du verset 26 de Romains 8. Reprenons cette fois-ci ce même verset, mais dans son entier. Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. Quand je me prosterne devant Dieu pour le prier, pour l'adorer, il sonde mon cœur. Un mot sur ce verbe sonder. Vous le savez, quand il plonge ta pique vers l'abîme, les grands cétacés, comme les cachalots par exemple, lorsqu'il plonge ta pique, on dit qu'il sonde. Sonder, c'est traverser une zone de surface, c'est aller au-delà de cette zone de surface et découvrir ce qui se trouve dans les profondeurs. Lorsque nous lisons que Dieu sonde nos cœurs, cela signifie qu'il ne s'attarde pas indéfiniment à considérer nos zones de surface, mais qu'il plonge son regard en nous pour lire ce qui se trouve au fond de nous. Il nous connaît en vérité. Rien n'échappe à son regard. Vous êtes nombreuses et nombreux ce matin à connaître comme moi par cœur le premier verset du psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Voici une série de 6 remarques qui nous conduiront au terme de ce partage. Première remarque. Excusez de le dire aussi naïvement, mais les rois mages ne sont pas venus en fusée, en avion ou en TGV. Eh non, ils sont venus à l'allure de leur monture, c'est-à-dire au pas à pas. Au pas à pas. Dit comme ça, ça n'a l'air de rien ou de pas grand-chose. Sauf que, si nous y réfléchissons un peu, il est juste inconcevable d'associer l'adoration à un climat d'urgence ou de précipitation. On n'adore pas le Dieu trois fois saint à la va-vite. On n'adore pas le Dieu trois fois saint en expédiant. Pour autant, cela n'exclut pas l'adoration spontanée. Deuxième remarque. Si l'Esprit nous conduit en adoration et en vérité, nous devenons alors agréés par Dieu. Pourquoi ? Parce que nous faisons alors partie de ce CEUX qu'il cherche. C'est très exactement ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Troisième remarque. J'ai eu, il y a peu, une conversation nourrie, assez dense, avec un très cher ami qui m'a dit « C'est bien beau tout ça, mais il y a toujours des pensées indésirables qui viennent polluer notre temps d'adoration. » Comme c'est vrai, comme ce constat est réaliste, et combien nous nous reconnaissons en lui. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas se laisser piéger par l'accusateur. Dieu sait que par nature, la chair est peu encline à l'adoration. Mais lui, il est esprit et il sonde nos cœurs. Et quels que soient les brouillages de nos zones de surface, il connaît nos profondeurs. Et il sait à quoi tend notre esprit et nos cœurs. Quatrième remarque, Dieu veut que sa sainteté soit proclamée. Dans le livre de l'Exode de l'Ancien Testament, on lit que le prêtre portait sur sa tête un diadème, une lame d'or, sur laquelle était gravée « Sainteté à l'Éternel ». Dans le Nouveau Testament et dans la prière que Jésus nous a enseignée, après l'adresse faite au Père Céleste, il nous demande de commencer par « que ton nom soit sanctifié ». D'abord, que ton nom soit sanctifié. Le reste de la prière vient après. Cinquième remarque, nous abordons ici un des fondamentaux. Dieu le Père a distingué son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en faisant du nom de ce Fils un sujet d'adoration à part entière. Nous lisons ce passage bien connu dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 9 à 10. Le Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sixième et dernière remarque. D'ores et déjà, notre adoration présente porte en elle le sceau de l'éternité. Elle est en quelque sorte l'annonce ou les prémices de l'univers d'adoration qui sera le nôtre en présence du Père Céleste. Le livre de l'Apocalypse lève un coin du voile et parle abondamment de tout cela. Nous ne lirons qu'un verset au chapitre 5 de ce livre, il est verset 12. L'apôtre Jean dit ceci, « Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir. » En principe, si l'on veut scrupuleusement respecter la chronologie du calendrier liturgique, on ne prêche pas sur les rois mages un 23 novembre. Ce n'est pas la date. C'est vrai, sauf que ce matin, notre sujet n'était pas les rois mages. C'était l'adoration et il n'y a pas de date pour adorer. Il faut conclure. La conclusion risque de vous paraître un peu abrupte tant elle tient en peu de mots. En fait, elle va se résumer à une seule question. Le 6 janvier 2023, le pape François, en la basilique Saint-Pierre de Rome, a prêché sur les rois mages, et c'est lui qui a conclu par cette fameuse question. Je dois dire que ce matin-là, je l'ai reçu en plein cœur. La voici donc retransmise au mot à mot, telle qu'elle a été formulée. Dans notre vie de chrétien, quelle est la place que nous accordons à l'adoration ? Amen.